Bonjour à tous. Donc je vais vous lire mon témoignage comme je l'ai écrit. Waouh, cette fois-ci, c'est la bonne. On est le 28 février, dans 5 jours, je vous lirai ça, à ma famille, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. C'est au moins la troisième fois que j'écris ce témoignage. Mais Pierre a renié 3 fois Jésus avant que le coq ne chante, n'est-ce pas? Si je l'ai écrit 3 fois, c'est par peur d'abandonner. Ensuite, par peur qu'on comprenne pas réellement où je veux en venir. Mais comme je l'ai dit, cette fois, c'est la bonne. Je m'appelle Manon et j'ai 28 ans. Et je dirais que je ne suis pas à plaindre. Je suis née dans une famille catholique, mais surtout incroyablement aimante. Globalement, j'ai vécu une enfance heureuse. Et puis, la vie m'a appris à comprendre que parfois, le monde était méchant. J'ai malheureusement subi des attouchements et ma vie a pris un autre tournant. J'ai grandi avec quelques traumatismes, mais celui-ci a ouvert une porte sombre en moi. Une crise d'ado difficile pour ma tendre maman. Pour ce qui suit, je ne vais pas détailler, mais j'ai connu les scarifications, se faire du mal pour se rappeler qu'on existe. Ensuite est venu l'alcool, les boîtes de nuit, les hommes, le cannabis. Mais je savais au plus profond de moi que ce n'était pas ça de profiter de la vie. Je me suis intéressée à l'islam d'abord, assez jeune. Et pendant 4 ans, j'ai réellement été pieuse. Je me suis mariée par la suite, mais ce ne fut pas la meilleure des décisions que j'ai prises. Je venais juste de perdre mon grand-père, qui était l'homme de ma vie, et cet homme que j'ai épousé a été comme un rocher où m'accrocher pendant cette tempête. Mais c'était plutôt un rocher Ikea, et d'ailleurs, je le conseille pas. Et évidemment, j'ai divorcé. Après ça, se sont enchaînées une multitude de mésaventures que je ne détaillerai pas, par pudeur et aussi par manque de temps. Il faut que je laisse du temps aux autres. Mais j'ai connu des drogues dures comme la cocaïne, les médicaments à usage autre que médicaux et bien d'autres drogues qui m'ont détruit le cerveau. Petit à petit, j'ai perdu espoir en la vie, en l'être humain. Je ne croyais plus en l'islam. Même si j'ai toujours respecté la religion, c'était loin derrière moi. J'ai voulu me reprendre en main le jour où la mort ne me faisait plus peur, ou au contraire, je voulais mourir. Je faisais d'ailleurs tout pour mourir. J'avais connu la drogue, l'alcool, de multiples viols, des violences conjugales, des déceptions amicales. Il fallait que tout cela cesse. Alors à 24 ans, je me suis inscrite à la fac et j'ai rencontré à nouveau une vieille connaissance. Une vieille connaissance qui a lu en moi comme dans un livre ouvert. Sharon. Elle a été l'étincelle, celle avec qui j'ai parlé des heures de religion. Celle qui connaissait mes secrets les plus honteux, celle qui a joué le rôle de la sœur spirituelle, de ma première sœur en Christ. Je voudrais aussi vous parler de Guilhem, c'était mon prof d'espagnol à la fac. Et il a rapidement vu que j'étais en détresse et il a toujours été là, il m'a aidé à tenir le coup jusqu'au bout. À eux deux, et sans se concerter ni même sans le savoir, ils m'ont sauvé la vie. Sharon ne m'a jamais abandonnée, Guilhem non plus. Maintenant, je sais que Christ leur avait sûrement confié une mission. Sharon a pris le temps de m'inviter plusieurs fois à l'église, souvent, très souvent. Puis j'ai fini par venir. À ce moment précis de ma vie, je voulais mourir, j'étais toxicomane et je faisais énormément de mal à ma maman. Je dormais très peu et très mal, je cessais de faire des songes horrifiques qui me terrifiaient mais qui par-dessus tout me faisaient horriblement mal. Et la semaine où j'ai fini par venir, j'ai fait un drôle de rêve. Je tombais dans les abysses et mon corps était attrapé, griffé. Je sentais ma chair brûler. J'ai levé les yeux et Sharon était là. Elle me tendait la main, elle m'a sorti de là et elle m'a dit « Manon, ils t'attendent depuis si longtemps ». Donc je suis venue à l'église. C'était un vendredi soir à une soirée oxygène. Ce soir-là, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai beaucoup pleuré. J'ai eu la sensation d'être venue le jour où je devais venir. J'ai suivi oxygène durant tout l'été. Et suite aux prières en ma faveur, mes songes se sont peu à peu dissipés. Je n'ai plus eu aussi peur des gens. Et j'ai prié et j'ai eu des réponses à mes prières. Et puis Israël a voulu connaître un peu plus mon parcours et mes envies. Je me suis braquée. Je suis pas quelqu'un qui parle. J'aurais tendance à tout compartimenter dans des boîtes et certaines étaient scellées. J'ai arrêté de venir à oxygène plusieurs semaines, peut-être 2-3 mois. Mon addiction a repris le dessus et mes vieux démons avec. Eh bien Dieu ne m'a pas lâchée. Il m'a envoyé Israël. Il a tenu le coup là où beaucoup m'auraient laissé mourir. Oxygène a prié pour moi, Israël, Sharon, Lauriane, Mary, Merdi, Anaïs et tous les autres. Vous êtes mes soutiens, mes frères et mes sœurs. Alors merci de m'avoir accueilli. Et surtout, merci papa pour tout ça. Aujourd'hui, Israël m'accompagne parce que sans lui, j'aurais baissé les bras. Et aujourd'hui, je suis sobre et je mène un combat pour le rester. Tout ça pour Dieu, parce que je suis sa fille et que je l'aime. Alors je lui donne ma vie comme il a donné celle de son fils unique. En fait, j'ai pas pleuré.
Tu peux laisser tes lunettes. Voilà, je demande à la famille, aux amis de venir. Venez, venez autour. J'avais dit à Israël de la laisser longtemps dans l'eau. Il y a encore de la place si des personnes veulent venir. Mais voilà, sentez-vous libre.
Ok, maintenant je vais te poser deux petites questions. Tu répondras par oui, j'accepte, ou soit oui, je crois. Maintenant, acceptes-tu de faire la marche avec Jésus durant toute ta vie?
Oui, j'accepte.
Crois-tu en Jésus? Crois-tu en sa mort et en sa résurrection?
Oui, j'y crois.
Ok, je vais prier pour toi et puis je vais te baptiser. Seigneur, je te glorifie pour la vie de Manon. Merci parce que c'est toi qui étais là, Seigneur, et c'est toi qui l'as appelé. Père, que dans sa vie, qu'elle vive la liberté, la délivrance, l'épanouissement en Christ et l'amour, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, qu'elle entre dans son appel et qu'elle découvre qui elle est réellement en toi, Jésus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te baptise.
Bravo. Super.
Bonjour à tous, je m'appelle Emma, j'ai 15 ans et je connais l'église depuis ma naissance. De l'école primaire au collège, j'ai beaucoup été seule, surtout en primaire car les autres élèves se moquaient de moi et ils ne me parlaient pas beaucoup. Au collège, j'ai eu quand même quelques amis, mais j'ai eu une année de troisième très compliquée car les élèves de ma classe me laissaient de côté et je n'avais pas d'amis. C'était très difficile à vivre car j'ai toujours été très timide, surtout dès mes 10 ans. Mais Daniel et Francine ont prié pour moi et cela s'est arrangé. Mon passage préféré dans la Bible, c'est dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Depuis quelques années, j'ai prié tous les soirs pour avoir des amis et en rentrant au lycée, j'ai vu que le Seigneur a répondu à mon appel et qu'il est là tout le temps avec moi. Avant, je vivais une religion. Aujourd'hui, je vis une relation. Et je sais que Dieu est fier de moi, qu'il m'aime et qu'il veut être mon ami. Je me fais baptiser car je crois en Dieu et Jésus et que je souhaite marcher avec lui et être sa disciple et le suivre.
Voilà, si la famille, les amis veulent venir.
Je suis émue, autant que toi. Emma, nous avons entendu ton témoignage. Le Seigneur a fait des belles choses dans ta vie. Et il en fera encore. Est-ce que tu veux marcher avec lui tous les jours de ta vie?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est vraiment mort et ressuscité pour toi?
Oui.
Alors au nom de Jésus, je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bravo. Thierry, si tu veux venir.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour, donc moi je m'appelle Thierry Bly, je suis le fils à Nathalie et Sandre Bly, je pense que vous les connaissez. J'ai 16 ans. Je suis issu d'une famille recomposée de deux grands frères et cinq sœurs. Donc, quatre grandes sœurs et une petite sœur. Donc, moi, j'entends parler de Jésus depuis tout petit. Je suis dans une famille de croyantes, très très croyantes. Donc, depuis petit, je prie avec mes parents. Mais à partir de 6-7 ans, je commençais à prier seul. Et chanter comme une présence. Enfin, je priais seul dans ma chambre, tout seul. Et chanter comme une présence qui m'écoutait. Et voilà quoi. Donc, ça me donnait encore plus envie de prier. Et je me sentais encore écouté. Même si je n'avais pas de réponse, je sentais qu'on m'écoutait quoi. Donc, à l'époque du collège, c'était une époque où j'étais très agressif, nerveux. Et conséquent, je me bagarrais beaucoup. J'étais souvent en heure de colle et on virait énormément de cours. Lors de cette longue période, j'étais souvent en heure de colle du coup. Mais j'allais quand même à l'église. Je n'allais pas de mon plein gré, j'allais pour faire plaisir à mes parents. Mon rapprochement avec Dieu, c'est surtout passé lors de l'année de 3e. Cette année-là, c'était l'année du brevet. Et je n'étais pas sûr de l'avoir parce que je ne travaillais pas beaucoup, etc. Et mon comportement aussi n'empêchait que j'obtienne ce diplôme, quoi. Donc, excusez-moi, je suis un peu ému. L'année, du coup, en fin d'année, je l'ai eu grâce à Dieu. J'ai beaucoup prié. Et je l'ai eu de justesse. J'ai eu à 400 points. 400 points tout pile. J'ai eu de justesse, donc voilà, gloire à Dieu. L'année suivante, donc je rentre au lycée dans une filière que mes professeurs m'avaient conseillée, mais que moi je voulais pas y aller, c'était en professionnel. Et moi je voulais surtout m'orienter en technologique. Et donc c'était un énorme bâton dans les roues. Et lors de cette année-là, j'ai rencontré beaucoup d'amis et beaucoup d'amis chrétiens. Et les mois passent, et puis le mois de mars, donc comme je disais, j'avais beaucoup d'amis chrétiens. Et ce mois-là, c'était le carême. Et mes amis le pratiquaient. Donc, pour les accompagner, je me suis dit que j'allais jeûner avec eux. Donc, j'ai jeûné. Et un jour, lors d'une pause midi au lycée, avec un ami à moi, on s'était dit qu'on allait créer un groupe de prière pour se soutenir lors de ces périodes. Surtout que, pour la plupart des personnes, c'était la première fois qu'on faisait un jeûne de 40 jours aussi long. C'était dur, surtout moi, parce que moi, j'aime beaucoup manger, hein. Et j'avais quelques envies de l'arrêter très prématurément. Mais grâce à Dieu, j'ai tenu. Et grâce à mes amis aussi. Donc dans ce groupe de prière, on se partageait chaque soir des versets pour fortifier notre foi. Et ça me donnait encore plus envie de découvrir Dieu. Donc arrivé en fin d'année scolaire, je devais adresser mes vœux pour l'année prochaine. Et donc j'adresse mes vœux. Et je suis convoqué dans le bureau du CPE, comme quoi que j'allais pas être accepté l'année prochaine dans STMG, tout ça. Et que je devais choisir une autre filière, ce que moi je voulais pas. Du coup, j'ai mis tout ça en prière. Le directeur adjoint, c'est celui qui accepte ou non, il voulait pas que je passe. Donc je mettais en prière. Et on recevait, je me rappelle, les réponses le 2 juillet. Donc le jour pas de ça. Et le grand jour arrive, je reçois un message de mon ami. Malheureusement, il n'avait pas été pris, alors qu'il avait un meilleur dossier que moi. Donc, j'ai perdu tout espoir. Mais je prie. À la fin de ma prière, j'ai fait une petite sieste. En me réveillant, je vais pour regarder sur le site, mais page blanche. Donc, j'appelle mon ami, je demande comment il a fait tout ça. Il me donne toutes les méthodes. Je recommence, mais page blanche. Je comprends pas. Donc j'abandonne un peu, j'attends les heures passées. 3 heures après, je reviens. Juste avant ma prière, je reprends encore une fois. Je réessaye. Et là, par miracle, on peut dire, j'étais admis, sachant que le directeur adjoint voulait pas que je passe. Donc ça prouve encore une fois que Dieu est grand et rien n'est impossible à Dieu. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai essayé de suivre vraiment Dieu et lui donner ma vie en demandant le baptême aujourd'hui. Merci.
Terry, selon ton témoignage, est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur, ton rédempteur?
Oui, je le crois.
Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés?
Non, je ne le crois pas, je le sais.
Amen. Amen. Terry, tu veux le suivre?
Oui.
Tu veux lui obéir?
Oui, à 1000%.
Ok. Je vais te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Terry.
Alléluia. Bravo. Manoa.
Merci. Bonjour. Moi, c'est Manoa. J'ai 25 ans. On m'a dit que je devais écrire un témoignage afin de parler de ma foi et de mon engagement vis-à-vis du Seigneur. J'ai beaucoup réfléchi puisqu'il n'est pas évident de parler devant une assemblée, encore moins de trouver quoi dire ou quoi expliquer sur moi ou sur ce qui m'a mené à être ici, mis à part mon amour pour Dieu. Alors après m'être posé maintes et maintes fois la question, la seule chose pertinente que j'ai trouvé à dire, c'est que j'aime Jésus, de tout mon cœur, et il n'y a rien de plus cher à mes yeux que ma foi. Je me tiens aujourd'hui devant vous afin d'attester de mon engagement, devant une assemblée, devant mes frères et mes sœurs, devant ma famille, et surtout, surtout devant Dieu. Mon parcours de vie n'a pas été simple, mais il a toujours été mené par le Seigneur. Chacune des épreuves qu'il a pu mettre sur ma route m'ont servi d'enseignement et m'ont permis de m'élever. Je ne crains de marcher ni dans le noir, ni dans les ronces, ni dans le feu, car je sais que chaque pas que je fais est guidé par mon Dieu. Je pourrais sûrement vous parler de ma foi pendant des heures, mais un témoignage se doit d'être court et concis. C'est pour cela que tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aime Dieu. Que ce soit dans la tristesse, dans la joie, ou bien dans les épreuves, je l'aime et je lui obéirai jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre et ailleurs. Maintenant, pour parler un peu de moi et de ce qui m'a conduit ici, je dirais simplement que j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. Elle n'est pas la famille la plus riche, mais elle était humble. Mon père m'a transmis sa crainte et son amour pour Dieu. Ma mère, quant à elle, m'a appris le respect et la douceur. Mes frères et mes sœurs, eux m'ont appris la patience et le partage, bien que pas toujours équitable. J'étais un enfant très curieux et désireux de savoir, et je le suis toujours d'ailleurs. Dieu sait que quand je le rencontrerai, je passerai au moins un millénaire à lui poser des questions. Au moment où j'écris ces lignes, je suis en compagnie d'une amie que je considère comme faisant partie de ma famille et de ma meute. Et il paraîtrait que j'évite le sujet de qui j'ai été, de ce qu'a été ma vie jusqu'à présent. À mon sens, je ne pense pas être ici pour parler de la tristesse, du rejet, de la peine, de toute la souffrance que j'ai pu endurer au cours de ma vie. Je ne suis pas là pour parler des fautes, de mes péchés, de toutes ces choses vaines qui ont pu m'entourer par le passé, mais je pense être là pour devoir vous parler de l'amour que j'éprouve pour le Seigneur. Pour finir, je souhaite juste remercier notre Père qui est aux cieux et toutes les personnes qui m'ont conduite jusqu'ici, en ce jour de paix et de partage. Je voudrais également vous partager le cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci.
Il y a un petit creux là, si tu veux, pour filmer. Ça va ?
Ok. Manoa, est-ce que tu es prêt à t'engager avec le Seigneur jusqu'à la fin de ta vie?
Oui, je le suis.
Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et qu'il est ressuscité t'attendant à la droite de Dieu dans sa gloire?
Oui, je le crois.
Sur cette déclaration de foi, je vais te baptiser déclarant que le vieil homme meurt aujourd'hui et que le nouvel homme de Christ prend vie en toi. Amen.
peux sans micro, mais... Il y a un moment, je discutais avec... Quand je dis un moment, c'est... Ouais, un moment. Avec une voisine qui est marocaine, d'origine marocaine, et elle me parlait de ses difficultés de santé, de travail, d'élever seule deux enfants, etc. Après un mariage, elle me disait loupé avec un Français. Donc voilà, c'était apparemment compliqué. Et dans la discussion, elle me disait que elle avait été, lorsqu'elle est venue du Maroc, etc., elle avait été très aidée par un couple dont l'homme était directeur d'une banque. Et dans la suite de la discussion, elle me disait « Ah, cet homme est décédé prématurément, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était à 38 ans. Et il est décédé en l'espace de 2 mois. » Et elle me raconte que cet homme avait vu qu'il avait un mélanome et que il avait été voir des magnétiseurs pour faire passer, et puis il avait attendu de voir ce que ça donnait. Sauf que 2 mois après, voyant qu'il n'y avait pas de changement, il s'est rendu... au CHU, et c'était trop tard, il avait un cancer généralisé. Trop tard. La tumeur s'était répandue d'une manière subite, rapide, agressive. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de Jonas, mais souvent oui, même quand on n'a pas énormément de connaissances bibliques. Jonas, c'est celui qui s'est fait happer par un poisson et qui est resté, j'ai pas dit une baleine, hein, je sais pas ce que c'était comme poisson, mais voilà, qui était resté pendant 3 jours dedans avant d'être... rejeté. Et lui, Jonas, son histoire, c'est qu'il était prophète, il recevait des choses de la part de Dieu, il les transmettait, et Dieu lui avait dit, tu vas aller à Ninive, tu vas aller dire à cette ville que, à cause de ses fautes, de ses péchés, de sa manière de vivre, je vais détruire la ville. Et donc... Jonas ne voulant pas, enfin bref, il a presque attenté à sa vie, etc. Mais bon, la fin de l'histoire, c'est qu'il y va. Il parcourt la ville pendant des jours en disant, voilà ce que Dieu a décidé. Et finalement, le roi et les gens entendant cela ont dit, mais il faut qu'on se tourne vers Dieu, qu'on lui demande pardon et qu'on marche avec lui. Donc c'est ce qu'ils ont fait, et dans ce cas-là, Dieu a simplement dit, je vais pas détruire la ville. Et Jonas, il était furax. Quoi ? J'ai l'air de quoi, je reste poli, hein. J'ai l'air de quoi, moi, maintenant, d'avoir dit que tu vas détruire la ville et puis finalement tu le fais pas. Et Dieu de lui dire, mais Jonas, est-ce que moi j'aurais pas pitié de ces gens? C'était une très grande ville à l'époque, quelque chose 140 000. Moi, Jonas, toi, t'es en train de râler parce que t'as planté un arbre et puis il a crevé. Tu râles après moi et moi, j'aurais pas pitié de 140 000 habitants qui savent pas discerner leur droite de leur gauche. Autrement dit, Dieu dit, mais moi, j'ai pitié de ces gens qui savent pas discerner leur gauche de la droite. Quelle relation entre ces deux récits? C'est que dans la société dans laquelle nous sommes, de plus en plus de personnes ont du mal à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai. Et ça prend des proportions avec les fake news sans arrêt, mais voilà, on ne sait pas, les gens ne savent plus. Et lorsqu'on discute avec des personnes n'ayant aucune base biblique, on va dire, mais ah bon, c'est comme ça. Peut-être que tu es dans une situation à cause de l'ignorance. Comme dit, on ne croit pas en Dieu, on sait qu'il existe. C'est différent. Le connaître, c'est pas seulement d'avoir une connaissance intellectuelle avec lui, mais c'est d'avoir un partage, une intimité. Connaître au fur et à mesure ce qu'il pense. Et lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, on voit les choses et la société d'une manière différente. Nos jugements et notre perception change et devient autre. Le fait que moi, j'ai rencontré le Christ, ça m'a donné une autre vision de la société, mais aussi une autre vision de moi-même. Je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui j'étais, mais le Christ a permis en moi de montrer qui j'étais. Pourquoi je parle de cet homme qui a été voir un radiesthésiste, c'est que j'ai entre autres en pensée, lorsque j'étais aumônier protestant aux armées, là, je le suis dans les hôpitaux, les cliniques, après avoir été pendant 24 ans à la prison, j'ai rencontré là un homme à l'armée qui était mal dans sa peau. Et lorsque je me suis approché de lui, il me disait « Je ne sais pas si tu sais quel effet ça me fait quand tu t'approches de moi, mais je suis mal à l'aise et j'ai des problèmes. Il avait un problème de possession démoniaque parce que il était guérisseur. Et donc je lui ai dit « Mais est-ce que tu veux que je prie ?» Et donc, il était tellement mal qu'il a accepté la semaine suivante qu'avec l'aumônière Cato, on a prié pour lui. C'était. Elle avait jamais vécu ça, c'était assez fort. Et puis la semaine d'après, on devait se revoir. Et puis, il a dit, non, parce que je lui avais dit, si je prie... Et si on prie pour toi, tu vas perdre ton don, entre guillemets. Et finalement, il ne voulait pas la deuxième semaine. Il a dit non, je préfère. Alors je dis, mais tu sais ce qui se passe chez toi, on en a parlé, oui, mais je préfère rester dans un état de possession démoniaque, mais garder quand même cette espèce de pouvoir. Alors que je lui disais, et qu'il était d'accord, que le magnétisme dont il faisait expérience lui était donné par les puissances du mal et par les puissances démoniaques. Je me rappelle d'une autre jeune femme qui disait à ses amis, je peux pas voir Bernard parce que rien qu'à l'évocation de son prénom, il y a des choses qui bougent chez moi et elle avait des rêves, des hallucinations, etc. Ça coinçait. Ce que je veux dire par là, c'est que cet homme directeur de banque ne savait pas que en allant demander de l'aide au magnétiseur, c'est comme s'il allait demander aux puissances mauvaises de lui donner un coup de main. Mais ils ne le savaient pas, par méconnaissance. Et c'est là que vient ce terme, ce que Dieu dit, ils savent pas discerner leur droite de leur gauche. Les gens dans notre société ne savent pas. Parce que les pratiques, pas seulement de magnétisme, mais en général, ils ne savent pas. Jésus, lui, il vient pour délivrer les gens, quoi. Il vient pour dire, mais le voleur, pour parler des puissances démoniaques, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, voler. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis, pour que ceux qui me suivent puissent avoir la vie, mais pas seulement la vie, mais la vie en abondance. En fait, Jésus voudrait faire du troc. Je troque ta vie qui est compliquée, difficile, un peu pourrie des fois, par une vie qui soit autre. C'est une proposition que fait Jésus, il n'impose pas. Lui, il se déclare, Jésus, comme étant le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit-il. Les habitants de Ninive ont su avoir l'attitude juste, à savoir appeler au secours. Alors forcément, on n'est pas obligé d'être dans les problèmes et dans les difficultés pour croire en Dieu. On n'est pas obligé d'être mal en difficulté. On peut tout simplement, et chacun d'entre nous, nous pouvons dire à Dieu, mais ça a été un peu ma prière quand j'étais jeune. Les gens, ils n'arrêtent pas de dire, parce que j'avais été à l'église pour draguer la fille du pasteur. Donc, c'était pas tout à fait... c'était comme ça, quoi. Mais en même temps que je la draguais, j'étais obligé d'écouter ce qui se passait à l'église. Et les gens, j'entendais des scientifiques, des ingénieurs, des profs dire qu'ils avaient rencontré Dieu. Si c'est vrai tes histoires, moi je veux bien te rencontrer aussi, quoi. Alors je vous raconte pas le reste parce qu'il s'agit pas de moi, mais c'est là qu'a débuté le changement, la transformation, quand j'ai vu que... non seulement Dieu existait quelque part, mais qu'il avait envie qu'il y ait une relation intime, j'allais dire, ou personnelle avec moi. C'était pas juste quelqu'un là-haut qui me dit « Bernard, tourne-toi vers Dieu », et puis voilà, il y a une relation. Je le kiffe, moi, Dieu. Pas. Ou peut-être pas, moi, m'est égal. Enfin, m'est égal, c'est... Voilà, mais moi, j'aime Dieu parce que j'entretiens une vie relationnelle et personnelle avec lui. Et c'est ce que Jésus propose à chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est comme s'il était en train de dire à quelques-uns, écoute, tu sais pas, tu ignores. Ta droite de ta gauche, tu ignores qui je suis, tu ignores ce que je fais, mais moi, je peux, j'ai envie de me manifester dans ta vie parce que je t'aime. Et c'est parce que il nous aime que Jésus a accepté de mourir à la croix. Certains croient ou pensent que les Romains, les vilains, ou les Juifs, les vilains, ils ont pris Jésus et ils l'ont accroché à une croix. Mais Jésus a dit, mais personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne, quoi. Rien à voir. Et je la donne pour que les gens qui s'approchent de moi puissent vivre, comme on a chanté, des chants de liberté, d'amour. Ce matin, on ne vous propose pas ni une religion, ni une philosophie. On vous propose de croire et de vivre avec une personne qui s'appelle le Christ, Jésus. Et c'est lui qui change et qui transforme. Et c'est lui qui nous permet de voir, comme je le disais tout à l'heure, la société, mais aussi nous-mêmes, d'une manière différente. Vendredi passé, là, nous avons eu un temps de prière, de guérison physique et émotionnelle. Et effectivement, Jésus dit aussi, « Je viens pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Il s'agit effectivement de guérison émotionnelle. Moi, je ne voudrais pas être trop long, vous avez entendu les témoignages. Je voudrais juste proposer ou donner l'occasion aux uns et aux autres de dire « Moi aussi, j'ai envie de connaître et de vivre avec le Christ. Moi aussi, j'ai envie de savoir, discerner ma droite de ma gauche, mais avec lui, avec Dieu. » Donc, je vais juste demander à ce qu'on ferme les yeux, par respect pour les uns et les autres.